Sur la ligne, épisode 14, épisode de mi-tournoi de Roland-Garros. Nicolas Richard, comment vas-tu?
Ça va extrêmement bien, la plus belle période de l'année, l'automne, la période du manteau mince, c'est superbe.
Hey Nico, je suis content de te parler parce que je ne cacherai pas que ma semaine est allée très vite avec le début de la saison dans la LHJMQ, le repêchage de la Ligue nationale qui s'en vient d'ailleurs. C'est la casquette du Canadien. Ont-ils repêché? Ont-ils pas repêché?
Ben, ils vont repêcher, si on le sait. Mais qui? Là est la question.
À moins qu'ils changent leur choix. À moins qu'ils changent leur choix. Mais j'ai quand même ma tasse de Roland-Garros.
Hein, qui est designée, ma foi, de manière impeccable.
Cadeau de ma maman qui m'a ramené ça de Paris. Puis tu crois, ma mère est allée à Paris pendant Roland-Garros et pas allée au tournoi. Elle m'a juste ramené une tasse. Je l'ai chicanée, je n'ai aucune idée comment. Aucune idée comment. Nico, aujourd'hui, on a deux invités que j'aime beaucoup. Hugues Léger qui revient et Paul Rivard qui vont venir parler. Ils passent l'heure avec nous. Nous autres, on est chanceux, on a des chroniqueurs. C'est parce qu'on les paye cher. Hein, fait qu'ils décident
ben, de voilà, voilà, voilà.
Pour tout l'épisode. On va parler, bon, évidemment, de Roland-Garros. On va également parler de quelques petits sujets controversés, Nico.
Oui, ça brasse.
Ça brasse. Est-ce qu'on devrait avoir le hockey sur terre battue? C'est une question qu'on va poser. Et Hugues va nous parler également de tennis local dans une chronique qui devrait revenir une fois, deux fois par mois dans le podcast. Il va venir nous parler de tennis un peu plus local. Puis il est toujours disponible aussi pour parler de l'économie du sport en général. Nico, es-tu prêt?
Ça fait plus d'une semaine que j'attends le jingle. Envoie-moi-le, s'il te plaît.
C'est parti.
Du bonbon.
Je voulais faire quelque chose dans l'intro que j'ai oublié, fait que je vais le faire présentement. Juste dire au monde à quel point tu es professionnel. Là, je vais révéler une partie de notre conversation privée parce que je veux montrer aux gens que tu te parfumes pour
le
podcast. tu sais qu'on te sent pas, hein?
J'apprécie. Pour les gens qui nous écoutent, il y a quelque chose qui se dégage de ce parfum. Il fallait que je m'y mette. Non, pas le choix. Comme des grandes occasions, on reçoit deux invités en or. Il fallait se mettre sur notre 36 de manière olfactive.
C'est pas éthique. Parlant de nos invités, Hugues Léger. Bonjour, Hugues. Bienvenue.
Salut, les gars. Salut, tout le monde.
Et Paul Rivard, deux légendes du monde des médias avec nous aujourd'hui, Nico.
Absolument, et avec plaisir, puis j'ai hâte d'entendre Paul, notamment sur le Hawkeye, parce que je sens qu'il a beaucoup de choses à nous dire.
Ça fait trois semaines qu'il m'en parle.
J'ai même envoyé des photos.
Et il m'a envoyé des photos. Il dit « Garde ça pour le show ». J'en ai, puis j'ai gardé d'autres trucs aussi, parce que chapeau Valov, lui, c'est pas gêné pour faire, tout comme le collègue Paul Rivard de tweeter. Bienvenue, messieurs. Commençons avec Hugues. Est-ce que vous êtes levé de bonne heure toute la semaine pour écouter du tennis?
Ouais, pas mal. J'en profite, là. J'ai la télé dans ma chambre. Ça rend les choses plus faciles. On en profite bien. C'est un beau tournoi.
Pas un besoin. Il suffit d'enregistrer.
Ben, moi aussi, c'est comme ça. Moi, j'ai pas écouté beaucoup de matchs en direct. Quand je travaille dans le monde du hockey, là, alors je me lève pas à 5h du matin. J'en ai écouté beaucoup en rediffusion. Mais toi, Hugues, tu les écoutes en direct avec un petit café en préparation. Pas plus,
mais je me donne quelques rendez-vous. Là. On a eu plein de belles occasions avec un Français qui arrive de nulle part en plus, Hugo Gaston. Là, c'est une sacrée belle histoire. Donc, c'est un beau tournoi jusqu'à maintenant.
Ben, hey, du côté des hommes, messieurs, vous avez rempli des tableaux pour nous. Et ben, c'est Nicolas Richard, là, présentement, qui mène. Mais c'est quand même une course serrée, là. Vous voyez, là, Nicolas, lui, a 117 points. C'est moi qui suis avec 113. Paul Rivard avec 107. Et tout juste derrière Hugues Léger, 106 points.
Ça allait après le troisième tour, là. Il faut avoir ça chaque jour. Ça bouge beaucoup.
Oui, c'est fantastique. Ce genre de test-là. Surtout au tennis, avec un bracket, si vous me permettez l'expression, là. Essayer de deviner tout ça. Ouais. Ça n'a pas de bon sens en une période de pandémie où les athlètes n'étaient pas tous prêts pour la terre battue. Pour certains, c'était leur premier tournoi, dont Raphaël Nadal, que j'ai pas mis gagnant, exceptionnellement. Alors, écoutez, dans les premières rondes, là, c'était l'apocalypse. J'étais en train de regarder ça, puis après deux rondes, j'ai arrêté de le suivre. Je vais être bien franc. Je suis étonné d'être troisième. Désolé, Hugues, c'est de la chance.
Ça change de jour en jour, je le répète, mais tout peut arriver encore. Il reste une semaine. Il y a des gros points à aller chercher sur les dernières rondes, donc je me croise les doigts.
Ouais, exact. Et là, moi, j'ai peur parce que j'ai mis Dominique Thiem champion.
Moi aussi.
Ah bon, il y a juste
Nico. Je fais cavalier seul, ouais. Ma foi.
Il n'y a que Nico qui n'a pas mis Dominique Thiem champion. Alors, mais contre Nadal, ça va être compliqué. Mm-hmm. Surtout que Nadal joue du tennis là, pour le moins inspiré depuis le début. Il n'a pas été beaucoup embêté depuis le début du tournoi. Là. Êtes-vous impressionné, les gars, par la performance de Nadal, Paul?
Parce que c'est son premier tournoi depuis des lunes, effectivement, il aurait eu le droit d'avoir une contre-performance, mais ouais. Il est fascinant. Écoutez, la hargne de ce gars-là, vous savez, on a fait, j'allais dire que ça vient du champ gauche comme comparaison, mais moi, je me rappelle la célébration de la Coupe Stanley d'Alexander Ovechkin. Et autant le gars avait l'air d'un enfant, ce gars-là avait l'air possédé du démon au moment où il a gagné, au moment où il a sauté sur la glace pour aller chercher sa coupe. Je vais laisser de côté les célébrations qui ont suivi dans les semaines suivantes. Mais ça me fait penser à ça. C'est une bête, on le sait. C'est une bête athlétique, mais c'est une passion inimaginable. Est-ce qu'il a plus l'air d'un toréador espagnol? C'est impossible de faire mieux.
Oui, exact. Puis, toi, Hugues, t'attendais-tu quand même à ce qu'il soit aussi dominant? Je veux dire, il a joué à Rome et sa performance à Rome avait été correcte sans plus, mais moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi percutant comme performance.
Non, je m'attendais à une surprise dans les premières rondes, honnêtement, parce qu'il n'a pas eu son ramp-up habituel là, qui commence avec Monte-Carlo habituellement. Puis à chaque année, on voit depuis 2-3 ans là, qu'il est moins dominant. Il monte en puissance et il pique à Roland-Garros. Il n'y a pas eu cette accélération qu'il y a habituellement. Donc, je me disais peut-être qu'il va manquer un peu de préparation et qu'il pourrait se faire surprendre. Ce n'est pas arrivé. Il est aussi fort que d'habitude. Mais encore une fois, il y a des gros joueurs sur terre battue qui s'en viennent, qui ont eu un bon printemps aussi, ou un bon automne. Je suis encore au printemps avec la terre battue. Donc, Rublev, évidemment, Thiem. Donc, ce n'est pas encore gagné pour Rafael Nadal, mais quel beau tournoi jusqu'à maintenant. Rien à dire. C'est du solide.
Mes excuses tantôt, dans ma tête, c'était il n'y a pas eu de préparation sur le ciment, là, parce qu'effectivement, il a joué à Rome, puis ça a été une très courte préparation. Hugues, tu as entièrement raison de le dire. Sa façon d'arriver à son sommet, là, ça a piqué, si vous voulez, a été complètement différente. Alors oui, ça pourrait être bon, mais on a toujours dit que Thiem était le prince de la terre battue. On verra s'il va enfin mériter ce surnom-là.
En même temps, Alex, on l'a répété souvent aussi, c'est difficile de gager contre Nadal à Roland-Garros. Je veux dire, c'est chez lui. Il a tellement gagné là. C'est le roi à Roland-Garros. Puis c'est notamment pour ça que je l'ai mis en finale. Mais pour compléter ce que vous disiez, ça ne m'étonne pas que Nadal soit rendu à ce point-ci dans le tableau, mais c'est la manière dont il l'a fait. Il l'a fait tellement de manière aisée, ça semblait facile. Il n'a pas encore perdu un set, sans dire que je pensais qu'il allait être éliminé. Là. Au contraire, mais quand même, ça m'étonne à quel point il est confiant. Et tu l'as dit, Paul, c'est un guerrier, c'est un battant. Nadal, on le connaît depuis des années. La manière dont il l'a fait, c'est ce qui m'impressionne le plus maintenant.
Ça n'a pas été une grosse opposition et sans absolument rien enlever à ses adversaires ni à la prestation de Nadal. Mais quand je regarde Gerasimov, McDonald, qui avait éliminé le Canadien Steven Diaz, Travaglia, qui est un des surprenants Italiens cette année, car il y a d'autres tournois là, à Rome, ils ont été fascinants, et Sebastian Corda, qui était probablement déjà heureux d'être là, le fils de Peter Corda, que des vieux comme Hugues et moi avons connu.
Oui. D'ailleurs, je dois vous dire, les messieurs, Nico est vraiment un fan de tennis parce qu'il m'a écrit cette semaine sur un autre métachèque, ce que j'aurais dû montrer. Il m'a écrit « Corda a battu Seppi ». D'après moi, le nombre de Québécois qui ont écouté le match Corda-Seppi, vous n'êtes pas tant de ça.
Mais,
alors,
comme je
salue ta passion.
Ben, ce qui m'impressionne de Corda, ça fait quelques années, je le suis aussi, notamment parce que son père est un ancien joueur de tennis, mais c'est aussi parce que ses deux sœurs, Jessica et Nelly, jouent sur le circuit de la LPGA que je suis également. Donc, c'est de cette manière que j'ai connu Sébastien et je le suis depuis quelques années. Maintenant, il se développe dans le circuit américain. C'est un gars qui a surveillé, messieurs, je vous le dis, là, je dis pas qu'il sera un champion de Grand Chelem, quoi, rien de cela, mais ça demeure quand même ce qu'il a démontré jusqu'à maintenant. à Roland-Garros, il n'a jamais été aussi loin en tournoi du Grand Chelem. Cette volonté qu'il a, il vient d'une famille de champions, d'une famille de gagnants. Ça le démontre encore une fois, c'est un jeune qui sera surveillé.
Mais ouais, attention au prochain adversaire de Nadal. Oui. Donc là, les choses sérieuses commencent là, avec Senna, qui est un ancien gagnant en fait, 2019 du Next Gen Championship. C'est un des jeunes très, très prometteurs. Moi, je l'ai vu à cette finale 2019 des Next Gen. Il faisait peur. Et vraiment, là, c'est un Italien qui a joué sur terre battue aussi beaucoup. Donc, je pense que là, les vraies choses commencent pour Nadal au prochain tour avec Sinner.
Et le coup droit de Sinner, ma foi, c'est hallucinant à quel point il frappe fort, il est précis, il est constant. Pour ma part, c'est la première fois là, de mémoire que je le voyais jouer. J'ai été renversé par la confiance que ce joueur-là avait et la force de son coup droit, j'étais renversé, littéralement.
Petite parenthèse, peut-être, pour jaser avec Hugues et ainsi qu'Alexandre et Nicolas. Qu'est-ce qui est arrivé au tennis italien tout à coup? Avant, il y avait Fabio Fognini qui était tout seul là, comme un solitaire pendant des années. Et tout à coup, ils étaient à Rome. Ils étaient à peu près 6, je pense, en 8e de finale. Et surtout, bon, outre Sinner, mais il y a Berrettini, ce géant, un athlète hallucinant, une carrure de tennisman idéale, sans oublier Travaglia, Sonego, mais ils sortent d'où? Puis chez les femmes, il y en a un petit peu qui poussent aussi, mais chez les hommes, c'est incroyable.
Ouais, et Fabio est toujours là aussi, hein, donc.
Ouais, mais Fabio, c'est Fabio,
Ben, écoutez, c'est le tennis romantique, Fabio, hein. Quand il a battu Nadal à Monte-Carlo l'an passé, c'était une des performances de l'année, si vous vous en souvenez, c'était de toute beauté.
Ouais.
Moi, j'aime beaucoup ce genre de gars-là qui est au flair, qui a beaucoup de caractère, qui a un toucher incroyable, mais bon, qui est pas toujours très, très régulier. Mais on sent qu'il se passe du côté italien pour rebondir sur ce que tu dis, Paul, un peu ce qui s'est passé au Canada. Donc, on sent qu'ils ont une filière de développement qui est bien structurée. Ils livrent plusieurs joueurs de qualité, tant du côté femme que homme. Donc, il se passe un truc au niveau développement en Italie, c'est clair. Donc, c'est des pays, Canada, Italie, qu'on voyait pas trop hein, il y a encore 10 ans sur l'échelle mondiale au niveau du top 50. Et là, la filière de développement a bien progressé en Italie, clairement.
C'est un petit peu ce qui se passe avec les Russes, hein, oublions pas, avec trois gars dans le top 12 à peu près, là. Hein? Rublev, Medvedev et puis Khachanov.
Oui.
Et ce qui se passe au Canada, c'est.
Tout à fait.
Ça va être intéressant. Moi, je peux vous dire une chose que par rapport au tennis italien, c'est une anecdote un peu personnelle. J'ai vu ma mère pleurer pour du sport deux fois dans sa vie. La Coupe Stanley de Raymond Bourque et la finale toute italienne au US Open. Que ma mère n'a pas écouté un match, mais elle a écouté la finale toute italienne. Puis à la fin de la finale, elle pleurait, évidemment, parce que la championne annonçait sa retraite puis ça l'avait ému. Ça m'avait fasciné. Alors, salut, maman. C'est un petit mot à ma mère.
Monte la tasse.
Oui, la tasse. Je la chicane quand même pour ne pas être allé faire son tour à Roland-Garros. Quel échec.
Mais c'était une belle histoire, ça, parce que les deux Italiennes, il y avait la conjointe de Fabio Fognini.
Fabio, exact.
Qui était contre la vétérane, rappelez-moi son nom.
Est-ce que c'était petite. Flavia Panetta contre Sarah Errani?
Non, l'autre petite. Les balles coupées tout le temps, voyons donc, j'ai un trou de mémoire. Et ce qui était fascinant, elle avait battu Serena Williams en demi-finale, puis elle n'arrêtait pas de rire en s'excusant d'avoir battu sur le court principal. Elle avait battu la favorite des Américains. Dieu du ciel.
Roberta Vinci. Moi qui étais mélangé.
C'est une belle histoire, mais je comprends ta mère d'avoir pleuré un petit peu.
Ah, c'était incroyable parce que Flavia Panetta qui annonce sa retraite après pas avoir gagné. C'est une finale que personne n'avait vu venir. Là. Moi, je m'en souviens comme c'était hier.
2015.
Si quelqu'un avait gagé sur cette finale-là, il est riche aujourd'hui.
Oui, il n'est pas avec nous.
non, c'est ça. Exact. Non, ma mère qui avait été émue par cette finale-là, au même type que Raymond Bourque avec la Coupe Stanley. Alors, c'est ça. Ah, les gars, si je vous donne l'opportunité là, à mi-tournoi comme ça de peut-être changer vos prédictions, est-ce que vous changez de champion? Est-ce que vous voulez ajuster votre champion? Hugues et Paul, est-ce que vous restez avec Dominic Thiem ou est-ce que Raphaël Nadal, la façon dont il joue, va aller jusqu'au bout?
Il n'y a pas affronté grand monde jusqu'ici, mais moi, je reste, je conclue là, ma réponse, c'est je reste avec Thiem.
Même chose pour moi.
Nico? Je t'offre la possibilité de changer ton choix. Toi, tu avais Djokovic.
J'avais Djoko contre Nadal, mais je pense que je vais conserver Djoko parce que Nadal, je pense qu'il arrivera plus usé au final parce qu'il n'a pas assez joué. Bon, c'est des prédictions, c'est basé sur pas grand-chose, mais dans la mesure où je pense quand même que Djokovic, avec le momentum qu'il a depuis le retour des activités, il est inarrêtable et je ne vois pas qui pourrait le renverser. Bon, peut-être Nadal ou Té, mais je vais conserver, pour répondre à ta question, je vais conserver mon choix de Djokovic.
Très bon point.
Et je ne montrerai pas nos tableaux des femmes, Nicolas, parce que
non, c'est très correct.
Vraiment nous faire mal paraître, parce que, bon, ben moi, je...
Ben, à part le haut tableau avec une certaine Eugénie, qu'on avait quand même... on l'avait pas mis en finale non plus, mais on avait quand même prévu un bon tournoi pour les Canadiennes. Oui. Fernandez, Bouchard, pas qu'on l'avait, on l'avait prédit que ça allait si bien aller, mais quand même, je pense qu'on n'a pas été gêné pour ces deux joueuses.
Très beau parcours.
Oui, mais moi, dans le cas d'Eugénie Bouchard, je ne la voyais pas aussi loin parce que je pensais qu'elle allait affronter Yastremska au deuxième tour. Mais avec la défaite de Yastremska, évidemment que ça ouvrait le tableau. Et puis, elle a eu une belle performance. C'est un troisième tour en Grand Chelem. Peu importe le joueur que tu es, c'est jamais banal. Et Fernandez, on peut se le dire, toi et moi, Nico, on l'avait les deux au troisième tour.
Oui, ouais, absolument. Puis, justement, je pense que le reste du tableau là, est assez gênant. Là, mais pour ce qui est des deux Canadiennes, je pense que j'avais Eugénie au quatrième tour. Mais c'était beaucoup pour la fantaisie. Là. Mais finalement, mon choix s'est avéré payant. Ouais, mais...
pas complètement.
Hey, j'avais pas Fernandez au troisième tour, moi aussi, Alexandre.
Je n'ai pas appris les tableaux par cœur, Paul, mais...
Ah ben bravo, tu félicites l'autre, mais t'écoutes pas. Non, Alexandre.
Je te fais 100% confiance.
Ouais,
OK. Avais-tu Leila Fernandez au troisième tour?
Ben, je pense que oui. Quand j'ai vu là, qu'elle a battu Herzog, c'est bien ça, qui lui a permis d'aller au troisième tour. C'est ça. Oui, oui. Puis, de toute façon, moi, en passant, si vous me rendez crédit pour avoir vu Fernandez, là, je vais vous dire que j'étais un petit peu comme bien des gens. Faire des prédictions comme ça avec beaucoup de joueurs ou de joueuses qui sont incertains, ben, tu y vas avec les Canadiens. C'est sûr
qu'il ne
s'avait pas éliminé au premier tour. Puis Chapovalov était pas mal plus loin que ça dans ma hiérarchie. Mais c'est ça le problème. J'avais vu Eugénie Bouchard faire trois tours aussi, mais je ne croyais pas vraiment. Là.
Ben non.
Ouais, ben du côté des hommes, c'est sûr qu'on avait. C'est drôle parce que d'une certaine manière, on avait, je pense, plus d'attentes du côté des hommes. Peut-être pas dans le cas de Vachek parce qu'il affrontait Berrettini au premier tour, mais
exact.
De Félix et de Chapeau, on les voyait plus loin. Est-ce que vous, les gars, la performance de Félix, ça vous inquiète un petit peu ou c'est juste une mauvaise passe?
Elle commence à être longue, la mauvaise passe, parce que, excusez-moi d'être intervenu rapidement, je l'ai dit lors du US Open. Il n'y a pas eu un parcours si impressionnant. Là. Il a d'abord battu Corentin Moutet au deuxième tour, qui les fils se sont touchés et a perdu tout contrôle. Puis il avait battu Andy Murray, qui était juste le fantôme d'Andy Murray. Alors ça, j'étais très content de le voir loin, mais c'était pas extraordinaire comme Chapovalov. Et en ce qui concerne sa prestation dans les tournois sur terre battue, je suis un petit peu inquiet, effectivement. Je trouve qu'il accumule les fautes directes comme c'est pas possible sans les faire suivre. Chapovalov, là, dans son dernier match qu'il a perdu contre l'Espagnol, là, il y avait 106 fautes directes. Mais il a failli gagner avec 106 fautes directes. Ça vous donne une idée, là. Et 12 doubles fautes.
Ouais, Chapovalov joue un jeu vraiment inspiré en ce moment, un jeu d'attaque assez incroyable. Sa façon de jouer. Est vraiment impressionnante. Là. Il est toujours en train d'avancer. Il prend des chances, ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup de fautes, mais il fait beaucoup de points aussi. Donc moi, en termes de... J'aime beaucoup le tennis d'attaque au départ. Donc je pense que Chapovalov est vraiment en train de mettre son empreinte sur le circuit en ce moment. Ce qu'on sent moins du côté de Félix en ce moment. Félix est un peu plus en retenue. Moi, je m'attendais à beaucoup sur terre battue. C'est une surface qui lui va très bien. Ses premières grosses victoires, c'était sur terre battue en Challenger à Lyon, vous en souvenez. Il semble un peu moins inspiré en ce moment, Félix. Je ne tirerai pas de grandes conclusions. Là. C'est une saison étrange pour tout le monde. On verra ce qui se passera un peu plus tard. Il reste quelques tournois encore d'ailleurs. Il reste des Masters. Hein, on n'oublie pas Paris. Donc, on verra. Mais Félix est un peu moins inspiré en ce moment, clairement.
Mais est-ce qu'ils vont être tenus, ces tournois-là? Tu sais, ça, c'est loin d'être sûr encore parce que on regarde ce qui va se passer après Roland-Garros. Il y a beaucoup de tournois suspendus. Pour l'instant, le tournoi de Saint-Pétersbourg ne semble pas suspendu, mais la Kremlin Cup, elle est suspendue. Alors, T'sais, même le Masters de Paris, est-ce qu'il va être tenu? En tout cas, c'est pas si loin, mais c'est loin en même temps dans le contexte actuel. En tout cas.
Exact. Mais encore une fois, connaissant la Fédération française qui n'en fait qu'à sa tête, on pourra reparler un petit peu plus là, au niveau du hockey, au niveau du toit, au niveau de la météo et du fait qu'ils ont annoncé tellement vite qu'ils revenaient, que Roland-Garros aurait lieu, peu importe ce qui se passait cette année. Ils sont arrivés avec une fenêtre au mois de septembre qu'on vit maintenant, qui ne plaît pas à tout le monde, by the way. Donc, c'est eux qui gèrent le Master de Paris, Bercy aussi. Donc, ils vont encore tout faire pour le garder. Donc, à suivre pour le Master de Bercy.
Et les gars, si je vous offre la même possibilité, mais du côté des femmes cette fois, parce que moi, j'avais Muguruza comme championne, alors c'est pas ça qui va se passer. Et Nico, tu avais, toi, ouais, Simona Halep.
J'étais tellement confiant en plus de Simona Halep, qui connaissait des moments phénoménaux sur le circuit, puis je voyais pas qui pouvait la battre, surtout sur terre battue, à Roland-Garros qui plus est. Donc pour ça, j'ai été franchement déçu, mais bon, j'ai encore Kenin dans mon bracket, là, si on veut, qui est une joueuse que j'aime beaucoup, qui joue bien aussi. Je pense que si on suit la logique, là, ce serait ça.
Vitolina.
Attention à Kvitova.
Aussi, oui, puis je suis content que tu amènes ce point-là avec Vitova. Je ne sais pas, messieurs, ce que vous en pensez, mais il y a un mot, puis on en parlait souvent, Alex, aussi, dans les premières émissions. Je pense que le mot qui caractérise le mieux, en tout cas de mon côté, là, le retour du tennis, c'est nostalgie. Je suis tellement heureux, tu sais, au début de la... On parlait au début du retour de la pandémie, Alex, de Clash Terre. C'est comme on était excités qu'elle revienne. Au US Open, c'était Azarenka. Là, c'est Kvitova qui connaît des superbes moments. Je la voyais jouer. Je me croyais en 2014, là, lorsque je la regardais jouer, je la trouvais hallucinante. On dirait que ces joueuses-là, on est beaucoup axé sur la jeunesse, la nouvelle génération, mais de revoir ces anciennes joueuses d'élite, qu'ils sont encore, là, c'est encore du gros tennis qu'elles jouent, on dirait que ça me réconforte un peu.
Absolument.
Oui, encore une fois, je vais dire un petit bémol sur ça. Je dirais, on verra. Ce qui reste clair du tennis féminin, c'est que ça reste très ouvert. Si Serena n'est pas en grande forme, parce que tout peut arriver. Il y a Halep, effectivement, qui est dans une coche supérieure aux autres, selon moi, encore. Elle a pas eu un bon tournoi, mais comme ça arrive souvent du côté féminin, tout peut arriver. Mais je reviens sur Eugénie, parce que Eugénie m'a tellement surpris avec ses belles performances depuis quelques semaines. Oubliez pas qu'elle a battu Kvitova aussi à Istanbul. il faut en reparler. Kvitova est rendue en quart de finale à Roland-Garros. Donc, c'est bon pour Eugénie aussi, là, de voir ce qui se passe avec Kvitova. Mais encore une fois, je crois que ça reste très ouvert du côté féminin. Et moi, si je mets mon pari là, sur la liste qui reste là, du côté féminin, j'y vais avec Svitolina.
Et que dites-vous, une dernière, peut-être qu'on va dire la carte cachée, la jeune Swiatek.
Oui.
On veut dire, si elle continue de jouer comme ce qu'on a vu.
Oui.
C'est comme une bouffée d'air frais, tennis d'attaque, amorti à fond de terrain, incroyable, mais pas d'expérience de ce type de gros tournoi-là. Qu'est-ce qui va arriver si elle se rend en demi puis en finale? Est-ce qu'elle va pouvoir continuer comme tous ces jeunes loups qui peuvent surprendre au niveau masculin, là? Mais ça sera, c'est intéressante, là. Elle m'a surpris. On avait fait la finale, en fait, on n'a pas, il y a eu une finale très courte à Repentigny, mais on se rappellera qu'elle avait réussi à remporter ce tournoi-là en 2016, 17 ou 18. Là, elle avait seulement 15 ou 16 ans. Et la finale avait été écourtée à cause d'une blessure à la finaliste, mais je me rappelle d'elle. Et puis, on avait fait le match avec Valérie Tétrault et c'était toute une joueuse et ça a pris quelques années. Ça ne s'est pas produit tout de suite après sa période junior, mais là, elle est en train d'éclore, la jeune Swiatek.
Peut-être une histoire qui va ressembler à celle d'une de tes joueuses préférées, Nico, mais Ostapenko, peut-être, tu sais, une fille qu'on voyait assez gros, jeune, et qui est sortie un peu de nulle part pour aller gagner Roland-Garros, c'est peut-être une histoire qui pourrait se ressembler. Et dans mon cas, ben moi, j'y vais avec la même prédiction que Hugues. Moi, je vois pas dans ce tableau-là qui pourrait battre maintenant Svitolina. Elle est reposée. C'est une des meilleures joueuses au monde. Pour moi, à partir de maintenant, je la vois championne à des défaut d'avoir Muguruza qui est loin d'avoir eu le ouais. parcours que j'avais prédit. Et toi, Nico, tu
Ben, je vais rester avec Kenin. Je l'avais prédit ouais. au US Open. Elle avait énormément déçu. Est-ce qu'elle peut se reprendre maintenant à Roland-Garros? Je le souhaite. Svitolina aussi, c'est un choix excessivement logique. Là. On peut pas s'assiner là-dessus très, très longtemps. Là. Je pense que pour la suite des choses, Hugues l'a dit, c'est très ouvert. Tout peut arriver. Et pourquoi pas une surprise cette année? Pourquoi pas?
Il n'y a personne pris Podoroska? OK, c'est beau. C'est une blague.
Veux-tu y aller, Paul?
aller à la salle de bain, peut-être. Oui.
Non, mais si jamais Podoroska gagne, on dira que tu l'avais prédit.
Oui, mais tu me feras du montage pour que ça coupe tout de suite après.
Ah ben c'est une de mes forces au montage. On va voir, je vais te faire bien paraître, Paul. Ne t'inquiète pas. Parlant de d'inquiétude, il y a Shapovalov, lui, qui... on avait long à dire ouais. après son match. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il a dit beaucoup de choses concernant, entre autres, le tournoi.
Avec raison. Avec
il a
raison.
Dit qu'il n'y avait pas de bulle. Et ça, c'est inquiétant. Il a carrément dit, les gens peuvent aller au centre-ville et puis sortir. Est-ce que ça rejoint un peu, Hugues, ce que tu disais tout à l'heure au fait que la Fédération française fait à peu près ce qu'elle veut puis qu'elle contourne d'une certaine manière les règles de la santé publique?
Ben, j'irai pas jusque-là, mais bon, on a vu comment la situation a évolué dans les semaines qui ont précédé le tournoi. On est passé de full prévu de 50%, c'est-à-dire 10 à 11 000 sur le site, à 5 000, à 1 000. Les 1 000 personnes invitées, ben, évidemment, c'est sûrement des partenaires, hein. C'est déjà de la BNP, de Perrier, de Peugeot, les gros sponsors. C'est peut-être quelques seniors de la fédération. C'est, vous savez que les billets de Roland Garros, c'est une loterie hein, qui est offerte aux membres de la Fédé en premier. Je répète le fait que c'est une fédération très puissante et très bien acoquinée politiquement. Donc, ils ont beaucoup de marge de manœuvre. Maintenant, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, mais ils voulaient faire un statement cette année. Le président de la fédération a dit « on veut prouver que dans le contexte, on peut faire un événement grand public, important comme Roland-Garros et bien géré, évidemment, dans les normes sanitaires qui doivent être respectées. » Mais ils voulaient faire un statement social avec le tournoi aussi cette année. Et entre la météo qui est difficile, on le sait, pour plusieurs joueurs, vous voyez comment ils sont habillés durant les matchs, ils ont un toit qui devait inaugurer cette année, qui n'est pas une vraie inauguration parce qu'ils n'ont pas l'occasion de faire des grosses sessions de soirée. Donc, le toit, c'est un peu un pétard mouillé cette année. 30 millions d'investissements, hein, ce fameux toit, projet de 10 ans pour la fédération. C'est un bizarre de tournoi cette année. C'est pas une bonne fenêtre au niveau du timing. La semaine qui s'en vient, il va faire 12, 13, 14 degrés, beaucoup de pluie. Même s'il y a un toit, il va falloir qu'ils mettent tous les matchs sur le central ou à peu près. Donc, ils poussent pour que ce tournoi-là ait lieu dans des conditions qui sont vraiment pas souhaitables cette année. Et ça nous amène sur la discussion de la technologie, du hockey et autres, et des juges de ligne, évidemment. Donc, la fédération fait vraiment sa tête. Si j'avais une conclusion à faire, ce serait la fédération en fait sa tête cette année.
Hugues, avant de passer sur le hockey, vu que, bon, tu as tellement été dans le domaine de la publicité, de la représentation, des entreprises, du marketing. Oui. Et là, ben, on voit, en plus du temps frais, en plus de cette météo qui n'est pas adéquate, en plus de la période tardive, on a décidé de changer les balles.
Oui.
Avant le tournoi, on est passé de la Babola à la Wilson et ça a été… Ils ont fait l'unanimité. Tout le monde en avait à dire. Évidemment, à cause du temps frais, du temps humide, la balle est encore plus lourde. Il y a même des joueurs et des joueuses. Nadal s'en est plein. Il a dit « on peut même se blesser ». Et effectivement, de la façon dont ils frappent la balle, il suffit qu'elle soit quelques onces plus lourde. Et à un moment donné, ben, ça défait un petit peu leur habitude. Que dis-tu, toi? Quelle a été ta réaction en voyant qu'on unilatéralement, je pense que les joueurs l'ont appris très peu de temps avant?
Ben, ils sont culottés de le faire cette année avec toutes les autres conditions qui sont inhabituelles, je vais dire comme ça. Mais quand tu as un nouveau partenaire qui arrive, qui t'offre un montant ouais. important pour une commandite importante, ils pouvaient aussi dire, bon, la Wilson, c'est la balle du US Open aussi. Donc, je sais pas si c'est la même exactement qu'ils prennent au US Open, mais c'est une entente de partenariat qui est payante pour la fédération. Il n'y a pas de secret, là. C'est une question d'argent. Donc, ils vont pas aller demander aux joueurs s'ils peuvent changer de balle. Ils vont les informer, ils vont leur envoyer des caisses une semaine ou deux pour qu'ils se préparent avec la bonne balle, mais c'est tout. C'est un deal financier, c'est fait, et on joue avec ça, et c'est tout.
Est-ce Alors, que... ils n'ont peut-être pas eu la publicité qu'ils voulaient. Conclusion.
Effectivement. Effectivement, ce qui est en retard, c'est que le sponsor de balle ou le partenaire des balles paraît pas très, très bien aux yeux du grand public, surtout quand le favori numéro un ou Rafael Nadal dit écoutez, je suis pas très content de ça. C'est un mauvais début pour le nouveau partenaire. C'est pas le meilleur stand publicitaire qu'on pourrait souhaiter.
Oui, juste pour finir sur ton point de la bulle, Alex, qui je pense. Important. Je parlais aujourd'hui avec un ami marseillais avec qui je fais de la radio qui me disait les Français sont de nature très libertarienne. Et on l'a vu notamment au US Open où il y a plusieurs joueurs français, dont Benoît Paire, qui disaient c'est un peu trop strict. Il y a un peu trop de mesures, on n'est pas assez libre. Et donc, lui, ça ne l'étonne pas que la Fédération française soit très, disons, lousse là, sur les cadres et sur les mesures sanitaires. Et ça mène au point où on a entendu plus tôt dans la semaine où Alex Zverev disait mes voisins de chambre, les gens qui logent dans la chambre d'hôtel à côté de moi, ce sont des touristes qui reviennent à chaque jour avec des souvenirs de Paris. Et, wow. Qu'est-ce qu'on apprend hier après le match de Zverev? Il dit je fais de la fièvre, j'ai des étourdissements, je fais de la température et j'ai un début de toux. Un plus un font deux. Alors je me dis.
Pas son année, lui.
Et je vous rappelle que la fédération a suspendu 6 joueurs avant même le tournoi parce qu'ils respectaient pas les règles. Donc, je pense que c'est 2 poids, 2 mesures. Est-ce qu'eux-mêmes respectent les règles en ce moment? Ils ont déjà une poursuite en passant. Hein, par un des joueurs et son coach qui a été exclu du tournoi durant les qualifs. Là. Et donc, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de la gestion du tournoi par la fédération française cette année.
Ben, tu sais, je pense que c'est justifié, le chapeau Valov, de dénoncer ça publiquement parce que, je veux dire, les tournois font des pieds puis des mains pour se tenir. C'était quand même un test intéressant d'avoir pour une première fois des spectateurs dans un tournoi majeur et c'est un peu dommage de voir, en tout cas, peut-être que je parle à travers mon chapeau, là, j'étais pas sur place puis je sais pas, là, mais de voir qu'ils l'ont peut-être un peu pris à la légère. T'sais, si les règles étaient aussi que les joueurs pouvaient aller au centre-ville et revenir comme ils voulaient, je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a eu un certain laxisme au niveau des règlements par rapport à ça.
Oui, ils l'ont échappé.
Et Chapovalov, qui était dans une bulle à New York, il était capable de comparer les deux. Ouais. Alors, il a simplement dit probablement aussi ce que se dit en dehors des microphones par les autres joueurs. C'est sûr qu'ils se parlent et qu'ils sont complètement estomaqués de voir ça. Deuxièmement, l'Europe vit la deuxième vague avant même les États-Unis. Alors, il aurait dû être encore plus prudent, mais ça, c'est une autre histoire. On ne pourra pas refaire cette décision-là à ce moment-ci.
Mais pour Chapeau, c'était pas la seule raison pour laquelle il n'était pas content après son dernier match. Et là, Paul, je te donne toute la glace que tu veux. Je te mets cette photo-là. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses?
Alors, quelle est la photo que tu viens de mettre?
La photo, c'est la photo que Chapovalov a tweeté avec la balle, évidemment, au hockey à l'extérieur de la ligne.
Mais j'ai mieux que ça. Ça, c'est bien, on va le commenter. Mais j'ai mieux que ça, ce sont les 2 photos impliquant Raonic à Rome. Est-ce que tu les as pas loin?
Oui, je les ai, je peux te les sortir. Commente-nous un peu ce que tu vois là présentement, je vais te les sortir. Mais,
ce que je vois, c'est une marque qui est quand même très claire. Mais ce que je vois, c'est vraisemblablement une reprise Hawkeye que je n'avais pas vue, pour être bien franc. Et la reprise Hawkeye est disponible pour la télé seulement. Évidemment, on ne ferait jamais on pourrait jamais le faire sur l'écran géant pour entendre une foule qui pourrait huer. Mais là, il n'y a pas de foule ou il y en a si peu. Une chose qui est certaine, c'est que le Hawkeye est disponible même sur terre battue et je pense que les producteurs des différentes retransmissions font quand même attention pour ne pas trop ridiculiser un arbitre mais ou un juge de ligne. Mais il est clair que des histoires, prenez, si vous regardez tous les matchs principaux de tous les tournois sur terre battue, vous en aurez une par jour. Et là, je me rappelle même, ça m'échappe un petit peu le nom de la joueuse, mais il y avait cet arbitre qui descend de sa chaise et à un moment donné est obligé de dire « Je sais pas où aller, je l'ai pas vu ». Et ça, c'était après une discussion. Mais là, on a toutes les autres discussions que vous avez tous entendues un jour ou l'autre où, dans ma tête, il y a Jack Sock, en plus, qui s'est engueulé avec l'arbitre. Et là, elle dit, je me fais une image. C'était Aurélie Tourte, l'arbitre française. Elle dit, je me suis fait une image dans ma tête. Hein. Je pense qu'elle a fait un schéma dans sa tête. Et là, lui essaie de comprendre c'est quoi le schéma. Il y en a d'autres qui disent, ben, il y avait ce petit espace, mais il y avait-tu un espace, il n'y avait pas un espace. Bon, ça, c'est Miloš Raonic. C'est l'autre photo qui est la plus éloquente. Je ne sais pas. Et voilà. Regardez où est la balle. Ça, mes amis, c'est l'endroit où la balle a atterri quand elle touche le sol. Écoutez, là, vous avez quoi? 4 pouces à côté de la ligne de couloir? Et l'autre est descendu et il jurait devant Dieu qu'il avait la bonne marque. Raonic était complètement défait. Et il a été défait aussi. Mais ça... alors, Hawkeye sur terre battue, pourquoi pas? L'arbitre, souvent, et dans le cas de Raonic, il est parti de l'autre extrémité, il était debout sur sa chaise, la marque, elle était extérieure, autant dans le couloir qu'à l'extérieur de la ligne de fond. Comment voulez-vous, en descendant des marches et en faisant dos à un endroit que vous êtes supposé essayer de vous rappeler, quand vous jouez au golf et vous perdez votre balle quelque part, là, dans le foin ou dans le bois, vous vous faites une image mentale, hein? Ça c'est le boulot à côté, c'est le deuxième arbre à côté, puis elle était au sol, c'est la seule façon. Si vous regardez ailleurs et vous arrivez où était votre balle, vous l'avez complètement perdu. C'est la même chose. Oui. Hugues, j'ai hâte de t'entendre là-dessus, Nicolas et Alexandre. Ben,
écoute, je reviens sur, écoute, là, c'est la fédération qui passe dans le tordeur pour moi aujourd'hui, là. Inadmissible qu'il n'y ait pas de hockey à Roland-Garros, OK? Il s'attache à un folklore de, OK, on est sur terre battue, on voit la marque. Mais bon, c'est une tradition, c'est super. Hein? J'ai joué sur terre battue rouge, c'est vraiment génial. Ça fait partie de l'expérience. Cela dit, il y a tellement des gros enjeux maintenant, ça se joue à très peu de choses. La technologie est disponible, tous les tournois l'utilisent, il faut y aller. Puis effectivement, il y a eu beaucoup de joueurs dans ces situations-là qui vont montrer l'autre marque où l'arbitre va se tromper de marque. Donc, la marque, c'est pas une preuve de rien aujourd'hui. Donc, il faut le hockey. Et je fais un petit parallèle avec le soccer qui a résisté aux vidéos replay très longtemps parce que eux aussi, ça faisait partie du jeu que l'arbitre, ce que les juges de ligne voyaient si c'est hors-jeu ou pas, s'il y a une main ou pas. Puis je reviens sur la main de Dieu de Maradona, hein, c'était une faute qui n'a pas été vue, qui aurait été vue en vidéo replay. Mais le soccer utilise le vidéo replay maintenant. Le tennis, dans tous les tournois, devrait l'utiliser maintenant. Il n'y a aucune raison d'historique, de folklore, de tradition qui peut tenir par rapport à ça aujourd'hui. Donc, il faut le hockey.
Je vais faire appel à mon puriste, Nico. Oui. C'est peut-être le plus grand puriste de la gang ici. Paul aussi est un puriste, mais je sais que tu es à la même place que moi pour les reprises. Toi, Nico, est-ce que tu conserverais sur terre battue la façon de faire actuelle?
Ben, étonnamment, non, parce que je pense qu'on est ailleurs. On a le moyen pour le faire. On a la technologie qu'il faut pour donner un verdict clair, net et précis. Pourquoi s'attacher à une tradition, même si tu l'as dit, je suis un puriste puis je m'en cache pas, mais on a une tradition qui peut nous induire en erreur. Donc, on a le moyen, et j'adore l'exemple d'Hugues parce que c'est aussi l'exemple que j'avais au soccer. Longtemps, on s'est battu, notamment pour si le ballon a traversé la ligne des buts, mais c'est l'essence même du sport. Y a-t-il un but ou non? Est-ce qu'on peut le vérifier? Oui, allons-y. C'est simple. Au tennis, les deux premières choses que j'ai apprises à ma leçon de tennis, c'est un, comment tenir la raquette, puis deux, c'est quoi in et c'est quoi out. C'est les deux leçons les plus simples à apprendre. On a le moyen de savoir est-ce qu'elle est à l'intérieur ou à l'extérieur et on ne le fait pas. Il y a tellement d'enjeux, les montants sont tellement énormes, il y a des carrières qui peuvent se jouer à des millimètres près. On a la technologie pour, allons-y.
Ben, chapeau Valov, c'était ça. Il aurait peut-être gagné son match. Je ne sais pas s'il s'est sorti de son match, il faudrait lui demander à lui. Mais il avait ce match-là en main. C'est une situation qui l'a frustré, mais là, au plus haut point. Et ça aurait rendu, dans un cinquième set aussi serré, un point, ça peut faire toute la différence.
Oui, ça, et à Rome aussi, c'était pareil.
C'est la même chose. Et pour en venir à ce que Hugues et Paul disaient, ça n'a aucun sens. Après un 5-7, de se fier à des traces de balles. Il y en a des centaines en face de lui.
Ben, ils ont passé le tapis, mais quand même, tu as raison. Le terrain est gagné quand même.
Écoutez, le Hawkeye, on s'amuse à dire c'est pas parfait. Bon, c'est juste, c'est imparfait à 99,8%. Alors, si jamais, à un moment donné, un joueur se met à rire en regardant le tableau qui lui indique que la balle était à l'extérieur et était sûr qu'elle était bonne ou vice-versa, ça dure combien de temps? 2 secondes? Alors que là, vous avez plusieurs choses. Vous avez la télé qui va vous donner des reprises et je pense que le producteur doit s'attacher les deux mains en dessous pour ne pas pousser sur le bouton, remontrer le hockey, on va voir à quel point c'était à l'extérieur. Mais en plus, vous avez un joueur qui se met en furie, qui se sort de son match, qui peut même déconcentrer l'autre à cause de la pause qui va en suivre. Il y a un arbitre qui se fait ridiculiser. Et évidemment, là, quelque part, il y a un arbitre qui va se faire ridiculiser parce que la reprise va être éloquente, comme dans celle qui impliquait Raonic. Alors, si on avait le hockey sur terre battue, qu'est-ce que ça durerait comme récrimination? Une seconde, deux secondes, le joueur lève les yeux dans les airs. Et c'est sine qua non, là. Une fois que le hockey, dans tous les autres tournois du monde, une fois que ça apparaît au tableau, c'est terminé. Et le public adore le hockey. Ah oui, ils s'amusent à parier, puis tout ça. Ça fait partie du spectacle. Oui. Et puis là, le maintenant, public... on peut... Oui, vas-y, Hugues.
J'allais dire, moi, le public fait du bruit oui. avec la balle.
On applaudit. Ben oui.
dans les tournois. Alors, tu as raison, le public aime le hockey. Et Hugues, tu voulais ajouter quelque chose?
Non, mais j'allais dire, justement, ça fait partie de l'expérience maintenant. Il y a comme une anticipation avant de voir la reprise du hockey. Et les gens réagissent. Si la balle est vraiment à 3-4 mm, ça fait « Oh! » Donc, ça fait partie de l'expérience. Ça fait partie même du plaisir du jeu maintenant. Moi, j'aime beaucoup mieux ça qu'un jugement approximatif d'un arbitre ou d'un joueur. On est en 2020, là. On n'a plus besoin de vivre ces moments-là. On a une technologie disponible qui fonctionne bien, qui est fiable à quelques poussières près. On y va avec ça partout dans le monde. Là. C'est terminé.
Et un autre, juste pour finir là-dessus, peut-être, Alex, un autre exemple probant que j'ai à vous donner aujourd'hui, c'est que je faisais de la radio et dans le plan de match, je voulais parler notamment de cette reprise-là. Et là, notre réalisateur nous dit, bon, tu vas parler de la reprise du vidéo. Est-ce qu'ils l'ont enlevé? Je fais non. Ils ne l'ont juste pas mise. Donc, même quelqu'un, bon, tu sais, je veux dire, il suit le golf, le hockey, puis il était une fois Coupe Rogers en 15 ans, je pense. Fait que le tennis, c'est pas sa tasse de thé. Mais lui-même, dans sa tête, c'est automatique qu'une reprise vidéo en 2020, ça doit être disponible. Donc, c'est juste pour donner une idée que c'est tellement automatique maintenant dans tous les grands tournois que c'est inadmissible qu'en 2020, à Roland-Garros, ça ne le soit pas.
Excellent point.
Je pense qu'on est tous d'accord, puis je vois pas dans quel monde les joueurs seraient pas d'accord avec ça. Je pense que c'est vraiment plus les organisations. J'ai l'impression que si on fait un sondage auprès des joueurs, 99%, c'est pas 100% des joueurs vont vous dire utilisons le hockey, c'est à l'avantage de tout le monde. Puis pour ceux qui diraient l'informatique, ça peut avoir des défaillances techniques, ben à la limite, tu vas avoir une défaillance qui va être systématique, qui reste quand même équitable. Tu sais.
C'est parce mis à part l'aspect historique et traditionnel, il n'y a aucun argument qui pour me faire changer d'avis. Il n'y a aucun bon argument qu'on pourrait m'amener pour dire « t'as raison ». Il n'y a rien de valable, mis à part peut-être le côté historique, mais entre avoir un champion qui le mérite ou l'aspect traditionnel, j'aime mieux avoir quelqu'un qui mérite sa victoire et son point. T'sais.
Nico, en plus...
Excuse-moi, et ça, en plus, ça aurait été un très bon moment cette année. Ils ont mis 60 millions de rénovations sur le central cette année, sur le sol Philippe Châtrier, plus 30 millions sur le toit. Pourquoi pas aussi avoir une nouvelle enveloppe technologique en même temps? Ils sont partenaires avec IBM aussi, donc... Enfin, encore une fois, je ne comprends pas que Roland-Garros n'ait pas fait le saut vers cette technologie-là qui est maintenant acceptée partout.
En tout cas, j'espère que c'est une question de temps. Nico, j'allais te dire tantôt, en plus d'être pertinent, je trouve que tu sens bon.
Non, mais ça, c'est la clé. C'est la clé dans ce domaine, sentir bon.
ton parfum. Hey, j'aimerais ça qu'on passe à Hugues. Tu voulais nous parler de Leila Fernandez et de son développement. Puis, je trouve que c'est bien intéressant, surtout dans le cadre de sa performance présentement. Elle répond plus qu'aux attentes présentement. Là. Je veux dire, à l'âge qu'elle a, c'est phénoménal, ses performances.
Je cite le très respectable Sports Illustrated cette semaine qui dit « Leila Lee Fernandez is about to take the tennis world by storm. Ouais. » Donc, ils la mettent dans la même catégorie que Naomi Osaka. C'est qu'ils la voient comme la dauphine déjà de Naomi Osaka qui prend beaucoup de place avec raison depuis quelques temps, quelques années. Mais Leila, et moi, je l'ai vu jouer au Parc Jarry. Pour son âge, elle est d'une précocité au niveau de sa maturité, de son caractère, de son style de jeu qui est exceptionnel. Donc, pour que Sports Illustrated, qui est pas un magazine qui suit le tennis tant que ça, on va se le dire là, en fasse un feature. Donc, c'est un très bon signe. Donc, je voulais commencer ce petit segment avec ça. Mais bon, Leila, c'est un parcours particulier, hein. Mais qui est pas si différent de plusieurs joueurs et joueuses. C'est son père qui l'a pris en charge très tôt. Elle a hésité, par contre, avant de jouer au tennis parce que son père était joueur et coach de soccer. Donc, entre 5 et 10 ans, elle jouait au soccer et au tennis. Et c'est vraiment à l'âge de 10 ans qu'elle a fait le choix d'aller du côté du tennis. Tant mieux pour nous et tant mieux pour tout le Canada qui aime le tennis et qui aime le sport en général. Mais c'est son père qui l'a amené là où elle est aujourd'hui. Il faut le dire directement, elle bénéficie des services, de l'appui, du financement dans certaines mesures de Tennis Canada aussi, évidemment, maintenant. Mais son parcours qui l'a amenée là où elle est maintenant, à son âge, c'est son père qu'on peut remercier vraiment pour tout son parcours. Elle s'entraîne en Floride. Donc, c'est vraiment ce petit cocon père-fille qu'on a vu tellement de fois. Pour le meilleur et pour le pire, parce que des fois, c'est toxique. Je connais pas leur relation. Ce qu'on voit entre Jorge et elle, ça semble très bien. Mais bon, il y a toutes sortes d'histoires que vous connaissez. Sharapova, pour en nommer une. Ça n'a pas toujours été facile. C'est le même choix que Mike Bouchard avait fait avec Eugénie. Par contre, Eugénie, elle n'était pas coachée par Mike, mais elle était un peu en marge de Tennis Canada pendant une certaine partie de sa carrière aussi. Donc, elle était allée sur des cours privés, elle n'était pas au centre de développement au début. Donc, c'est des choix que les parents font au niveau stratégique, comme les Williams, la même chose. Ils ont dit, voilà, j'ai une championne entre les mains, mais c'est moi qui va la préparer, qui va la « groomer », entre guillemets, qui va l'amener le plus loin possible au niveau de son jeu, au niveau de son caractère. Puis après, peut-être trouver un coach. Mais c'est vraiment son père qui l'a amené où elle est aujourd'hui. Son idole, c'était Justine Henin, pour donner un peu son background aussi. Bon, elle aime beaucoup Federer, Nadal aussi du côté des hommes. Mais c'est une joueuse qui s'entraîne en Floride, qui a vécu une enfance pas dans la richesse. Hein. Ils ont fait des sacrifices pour arriver où elle est. Mais c'est ça qui forme le caractère aussi. Et je pense qu'on a tous les ingrédients ici. Là, si on regarde d'autres exemples de championnes, et je pense aux Williams, là, pour faire un parallèle un peu plus direct, elle est moins dominante physiquement, évidemment, que les Williams. Mais c'est un peu le même genre d'histoire. Donc Leila, c'est une histoire qui commence aujourd'hui, mais elle est sur le point d'exploser sur la scène mondiale. Puis son prochain tournoi sera peut-être le grand tournoi. On est toujours tout près là. Donc une troisième ronde à Roland-Garros, chapeau.
Moi, je l'ai interviewé quelques fois. Paul, toi aussi, je pense que tu l'as interviewé à quelques reprises. Ton œil d'expert, Hugues, à quel point elle est marketable, tu sais, qu'on peut la brander, cette fille-là. Quelle valeur elle a déjà et quel est son potentiel marketing à court, moyen, long terme?
Ben, il est énorme. Elle est c'est une fille qui est issue d'une communauté ethnique, on va le dire. Elle est mignonne, elle s'exprime bien. Elle a des racines québécoises très fortes. Donc pour le marketing québécois canadien, j'ai aucun problème. Et après, si les victoires s'enchaînent, ben tout est possible pour elle. Donc évidemment, elle va être coachée au niveau des médias, comment parler aux médias, quoi dire, quoi pas dire, c'est quand même très très normé, mais oui, c'est pas peut-être demain une mannequin justement du swimsuit issue du Sports Illustrated comme Sharapova ou Eugénie Bouchard a pu le faire, mais peut-être que c'est pas la voie qu'elle voudra prendre non plus, on verra, mais oui, elle est très marketable, Leila Hany, tout à fait.
Est-ce qu'elle a un côté, peut-être qu'elle pourrait aller chercher un côté peut-être plus latino-américain, peut-être, qui est pas nécessairement traditionnel au niveau canadien, par exemple?
Exact. Mais c'est une clientèle vaste aux États-Unis. Donc, si y a un sponsor américain qui l'amène sur ces segments-là, hein, en termes de ciblage pour ses commandites, pourquoi pas? On sait que le soccer vise beaucoup la clientèle latino au niveau de la MLS. Ça fait partie de leur cœur de cible, 18-34 latino. Et Leila Hany serait parfait pour ça. Et encore une fois, c'est un success story de underdog que les Américains adorent. Elle n'est pas née avec une cuillère en argent dans la bouche, comme on dit. Donc tout est possible pour Leila Hany, pourquoi pas?
Et ce que tu nous dis, c'est que la WTA aurait très intérêt à lui mettre une photo de profil éventuellement.
Ça aiderait. Je pense qu'elle est due pour être là.
Avec les performances, ça serait quand même un minimum. Tu sais,
écoute, tu es sur un tableau principal d'un grand chelem, tu mérites d'avoir ta photo. Oui.
Ouais, parlant de ça, elle a bien fait, tu sais, contre Vitova, même à ça, un 7-5, 6-3, c'est pas, ouais. Elle n'a pas été complètement déclassée.
Loin de là. Elle a fait un statement, comme on dit. Un statement, elle est là et elle va rester. Il y a beaucoup de belles choses qui s'en viennent.
Avant qu'on passe à ton prochain sujet, ouais, vas-y, Paul.
Juste, pas deux bémols, le bémol est un peu fort, là, mais deux questions. Bon, je l'ai décrite dans ses demi-finales finales à Granby. J'étais toujours étonné de l'avoir avancée parce que ce qui me revenait, et sans vouloir juger, c'est son petit gabarit.
Oui.
Et ce qui m'est, en fait, le beau côté des choses, ce qui me le jette par terre. C'est sa puissance à fond de terrain, sa régularité, sa précision dans les coups, que ce soit en croisé ou en parallèle. Mais c'est quand même sa petite taille. Deuxièmement, ce qui m'a fait un peu de peine, c'est de voir, et ça arrive à tous les jeunes, là, vous affrontez Petra Kvitova et c'est 5-1. Et là, vous vous dites, est-ce que là, elle, tout à coup, elle s'est dit, wow, il faudrait que je me réveille, c'est un beau rêve, mais il faut que je me réveille. Et malheureusement, le wake-up call, comme on dit en bon québécois, est arrivé et de façon très dure. L'autre a gagné quoi, 8 jeux consécutifs par la suite, ouais. Ou 9. C'est ça la différence, c'est le gabarit. Hugues, Nicolas, Alexandre, qu'est-ce que vous en pensez? Le gabarit, est-ce qu'elle peut gagner sa vie et même devenir marketable et devenir même une championne à 5 pieds 4? C'est très gratuit ce que je dis, mais à un moment donné, vous regardez ces femmes qui sont fortes, les Muguruza, c'est Arina Sabalenka, c'est du 6 pieds, et ouais. Ça met de la puissance sur la raquette.
Ben,
mais il y a des Simona Halep aussi.
Exact, c'est ce que j'allais dire. Pour répondre à ta question, il y a deux choses. D'abord, son idole, elle est idéale. Parce oui. que c'est exactement c'est ce genre de joueuse-là sur lequel tu dois te fier. Et Justine Henin, si on parle d'une fille qui a été championne de Grand Chelem, qui a été numéro un mondial et qui a été une des meilleures joueuses de son époque. Alors, puis qui a joué d'ailleurs à l'époque où tu avais des joueuses puissantes comme Sharapova, comme Serena Williams. Alors, c'est pas comme si elle avait joué à une époque où il n'y avait pas de puissance. Il y en a d'autres joueuses, tu sais, comme au plus petit gabarit, comme bon Martina Hingis, on va me dire, ça remonte un peu plus loin, et Simona Halep, qui le fait très bien dans le moment actuel. Alors, pour ce qui est de ton, entre guillemets, bémol, et je sais que ça n'en est pas un gros, je pense que si elle est capable de retourner, ben, elle va avoir du succès, comme peut-être comme Justine Henin, qui a été... regarde, elle est à peine un pouce et demi plus grande que
Léa Fernandez. Bravo.
Alors, je bon pense exemple. Que son idole, elle est absolument parfaite dans ces conditions-là. Toi, Nico, tu vois quoi comme potentiel?
Ben, je trouve le point de Paul hyper intéressant, parce que c'est ce que j'ai souligné. Moi, ce qui me renverse à chaque fois de Léa, c'est qu'elle arrive sur le court, petite, chétive, tu ne t'attends à rien. Et là, sur le court, bang, elle dégaine. C'est puissante, bien. Féroce. Donc, je pense que ce qui peut la rendre, ce qui fait son charme, en fait, c'est cette capacité d'émerveillement qui ne s'estompe jamais. Puis, tu sais, nous, on suit beaucoup de tennis, là, je parle pour nous quatre, mais pour les gens qui vont la découvrir, leur premier regard sera toujours, bon, elle est petite, bon, contre Vitova, c'est une géante. Et là, elle arrive sur le court, bang. Elle parle par la bouche de ses canons. C'est ce qui me renverse à chaque fois. Puis je pense que c'est ça qui va l'amener à peut-être susciter un intérêt assez intéressant, je pense.
Oui. Puis moi, ce qui m'a étonné, c'est drôle, ce matin, je voyais une photo d'elle et je me dis, la raquette a l'air énorme dans ses mains. Ça a l'air d'une enfant. mais pourtant, ouais. Non, elle la maîtrise visiblement très bien. Mais je fais un parallèle encore avec moi, avec mon joueur du tournoi jusqu'à maintenant, Hugo Gaston, 1m73. OK? C'est la même chose. Le gars, Vavrinka, il postième à un 5e set. C'est pas grand à 1m73. C'est à peu près 5 pieds 8. Là. Donc, il y a de la place dans le tennis pour des joueurs de petit gabarit. Ce n'est pas un sport que de taille et de poids. C'est pour ceux qui jouent, tout le monde joue ici, joue, c'est une question de timing, de transfert de poids. Tu n'as pas à avoir des gros muscles pour gagner, là. Donc des joueuses comme Léla ou des joueurs comme Hugo Gaston qui sont des petits gabarits, ils peuvent aussi aller très loin. C'est juste que physiquement, peut-être qu'ils vont accuser le coup après un certain temps parce que c'est dur de tenir ça pendant des années. Contre des joueurs ultra puissants.
Mais des gars comme Schwartzmann qu'on a vu à Rome, notamment.
Exactement, Hugo Schwartzmann, ouais. qui était, on a pensé au même, ou encore l'autre français, Corentin Moutet, je ne sais pas, il fait combien, mais il ne doit pas être très, très grand. Et je vous avoue que quand j'ai vu un bon match, pas celui contre Félix Auger-Aliassime, là, mais un bon match de Corentin Moutet, j'ai vu notamment dans la patente à Mouratoglou, là, pendant la pandémie, là. Ouais. Moutet, je m'excuse, c'est petit, mais... Alors, oui, bon plaidoyer en faveur des petits joueurs. Diego Schwartzmann, c'est peut-être le plus bel exemple.
Tu vois, Corentin, Moutet, t'as raison, il n'est pas si grand, 5 pieds 9.
Hugo Gaston, la même chose. 5 et 8.
C'est ça. Alors, OK, ben voilà, vous avez fort bien répondu
Mais en même temps, être imposant ne nuit pas non plus.
C'est correct, comme on dit. Hein? C'est correct. Quand je regarde Matteo Berrettini dans ses meilleures journées, j'appelle ça un cheval, moi, en bon québécois.
À Kachanov aussi.
C'est à condition d'avoir un bon service. Parce que si tu n'as pas de service, puis tu es grand, puis tu es lent, David Goffin, il va te rincer. Puis c'est pas le plus gros non plus, David Goffin. Mais souvent, ces petits joueurs-là, en plus, ça donne souvent des matchs complètement spectaculaires parce que c'est des joueurs qui se battent et qui retournent tout. Alors, ça donne souvent des matchs intéressants. Et Hugues, tu voulais enchaîner avec peut-être une portion un peu plus locale. Je te laisse aller, ça va être ton champ d'expertise et on va en parler un petit peu plus. Ben, juste peut-être avant, les gars, aviez-vous une conclusion sur Roland-Garros avant que je lance Hugues là-dessus?
Vive le tennis!
Excellent. Alors, peut-être un petit côté plus local avant qu'on termine, Hugues. Je te laisse aller avec ça. Je trouve ça très intéressant qu'on puisse aborder ce petit sujet-là.
Oui, à chaque fois, je vais essayer de prendre un sujet de tennis local, tant au niveau des clubs qu'au niveau des académies, qu'au niveau des coachs, qu'au niveau des gens de médias. Il y a plein d'histoires qui se passent au Québec qui fait qu'on s'attache à ce sport. On est dans un grand chantier de renouvellement de la clientèle au niveau du tennis mondial en ce moment. Et la patente à Mouratoglou, Paul, ça s'inscrivait là-dedans. On tente de rajeunir la clientèle cible du tennis qui est payante mais vieillissante. 61 ans, je le répète, l'âge moyen du fan de tennis au monde en ce moment. Donc, ceux qui vont acheter des billets pour les tournois, ceux qui regardent les matchs à la télé. Donc, le Québec s'inscrit dans ce même courant-là. Comment on amène des nouvelles générations de joueurs? Donc, je vais parler un peu de la structure du tennis au Québec pour mettre la table pour les prochains podcasts aussi. Donc, on a une fédération qui a de l'âge. Hein. On a une belle fédération au Québec. Elle a 100 ans, notre fédération. 35 000 membres, c'est la troisième fédération la plus puissante en termes de licenciés au Québec après le soccer et le hockey hein, dans le bon ordre. C'est le soccer qui est numéro un, suivi du hockey et du tennis en troisième avec 35 000 membres. C'est 130 clubs affiliés au Québec, 130, hein, c'est un beau chiffre. 26 clubs intérieurs, 104 clubs extérieurs et dans les clubs extérieurs, on met les municipalités qui sont affiliées aussi là-dedans. C'est une OBNL, donc c'est une structure à but non lucratif, mais c'est une structure qui peut gagner de l'argent aussi, parce que l'argent, on souhaite la réinvestir dans le développement du tennis au Québec. Donc, il y a aussi dans cette mission-là de chercher différentes sources de revenus pour rendre le tennis plus accessible, donner plus de chances de jouer à plus de gens, donner des facilités intérieures l'hiver aussi. C'est un grand chantier pour Tennis Canada aussi. Elle a le programme de bulles dont j'avais fait allusion là. La dernière fois aussi. Donc, il y a des grands chantiers en cours pour que les gens aient un accès plus simple au tennis durant les 12 mois de l'année. Mais ça a évolué quand même depuis plusieurs années. On a vu l'âge d'or des clubs en termes de fréquentation, en termes de nombre de clubs intérieurs. Dans les années 80, l'âge d'or, je reviens souvent, là, on paraît vieux à chaque fois qu'on dit ça, parce que nous aussi, on est dans ce groupe cible de 45+. Je parle de Paul et moi qui ont vécu l'âge d'or du tennis au Québec. Il y avait un club à Val des Arbres, à Laval, vous vous en souvenez peut-être pas. Moi, je jouais au Nautilus Plus de Repentigny, qui était un très gros club à l'époque. Sylvain Bruno vient de là, d'ailleurs. Donc, je n'ai aussi parlé la dernière fois. Mais donc, il y a eu une désaffectation lente dans les clubs du Québec dans les années 90 et début de 2000, qui semble s'inverser en ce moment. Donc, il y a eu des années plus compliquées, mais il y a aussi le fait que le fan de tennis moyen au Québec n'est pas très engagé par les dirigeants du tennis en général. C'est des efforts au niveau local. T'es engagé, t'es loyal à ton club, les activités qui sont mises en place fait que tu vas participer. Mais il y a des grands chantiers, je dirais, technologiques qu'il faut mettre de l'avant pour qu'il y ait un dialogue régulier avec la base de fans, pour intéresser les plus jeunes aussi sur différentes plateformes. Je pense que le podcast qu'on fait sert à ça aussi. C'est du contenu qui parle à beaucoup de gens, mais il y a beaucoup à faire pour engager avec une clientèle plus jeune. Il y a des applications qui deviennent disponibles maintenant pour trouver des joueurs de façon régulière, donc tennisenligne.ca par exemple, où tu trouves des joueurs, tu matches avec des joueurs de ton niveau et ça rend la chose plus facile parce que trouver un adversaire, ça reste un enjeu toujours au tennis. Donc, c'est
battre l'adversaire aussi, ça reste un enjeu.
Pardon?
Je disais battre un adversaire aussi, ça reste un enjeu, mais ça, c'est une autre histoire.
Exact.
Hugues, sur l'application, est-ce qu'on peut trouver des gens qui peuvent servir par en dessous comme moi?
Je pense que dans les profils, les gens ne le mettent pas trop. Ils gardent ça comme surprise quand c'est 45 sur un jeu important.
Mais je trouve ça tellement important que tu en parles, Hugues, parce que je suis issu de ce nouveau programme-là. Je veux dire, j'ai joué au tennis, j'ai été bon dans l'équipe des Laurentides. En tout cas, du moins, dans mon coin de pays, comment ça marchait, ouais. C'est qu'il y avait le club des Laurentides. Et ensuite, il y avait, bon, la ville de Saint-Jérôme qui jouait contre la ville de Blainville, contre la ville de Sainte-Thérèse. Puis bon, oui. L'hiver, j'étais bon au club de tennis de Piémont. Mais ce qui me fascine et ce que j'aime le plus de cet aspect-là du tennis, c'est la passion que les gens y mettent. Parce que tout au long de mon parcours, j'ai été entraîné par des gens qui n'étaient pas tellement plus vieux que moi. C'était des gens du cégep, des gens de l'université, parfois même du secondaire, qui l'été étaient payés à montrer des cours de tennis, à organiser des tournois de qualité. Pourquoi? Oui. Pour nous faire plaisir, pour que le sport se développe, pour qu'on apprenne à aimer ce sport-là dans un aspect compétitif.
Oui.
Tout ça pour dire qu'il faut lever notre chapeau à ces gens-là qui organisent, souvent par passion plus que pour le salaire qui vient avec, des tournois de tennis, des cours, des associations pour le bonheur des jeunes et des jeunes joueurs et joueuses de tennis. Puis je leur lève mon chapeau parce que j'ai été dans ces programmes-là, à l'intérieur même de ces organisations-là. Et pour avoir côtoyé ces gens-là, c'est une passion, c'est un dévouement qui mérite d'être salué.
Oui, c'est ce que j'ai vu moi aussi durant toutes mes années. Je joue au tennis depuis l'âge de 13 ans et c'est vraiment ces gens-là qui sont passionnés, qui font qu'à un moment donné, tu veux faire partie de cette communauté-là. Peut-être une dernière petite statistique là pour clore ce segment. Bon, en marketing, on parle souvent de moments disrupt, là, quand le contexte permet une accélération ou donne une opportunité sur quelque chose. Et j'aime pas beaucoup mettre le mot pandémie et opportunité dans la même phrase, mais c'est quand même le cas. Le tennis a été favorisé cette année par sa façon d'être. Hein. On est jamais à 2 mètres de quelqu'un si on joue pas en double. C'est le premier sport qui a été déconfiné avec le golf au mois de juin, vous vous en souvenez. Donc, il y a une hausse de 20% des abonnements en ce moment. Donc, depuis les mois d'été, les clubs intérieurs, extérieurs bénéficient beaucoup de ces restrictions au niveau des sports d'équipe qui sont revenus sur l'actualité aujourd'hui, d'ailleurs, avec les dernières annonces du gouvernement. Mais il faut en profiter. Il faut que ces gens-là, tu les fidélises. Il faut qu'ils s'amusent. Il faut qu'ils trippent. Puis il faut que tu les engages sur une base régulière avec des newsletters, avec du contenu le fun pour qu'ils restent une fois que les autres sports vont reprendre aussi. Mais c'est une opportunité de fidéliser des gens en ce moment.
Est-ce que la plupart des joueurs qui jouent vont aussi regarder du tennis à la télévision? Parce que moi, je connais beaucoup de joueurs de hockey qui jouent beaucoup, mais qui ne regardent pas de hockey. Ils aiment jouer, mais ils n'aiment pas jouer. Est-ce que le tennis, c'est le même genre de situation?
Vous savez ce qu'ils regardent? Ils regardent des highlights. C'est trop long, un match de tennis. Là, on a parlé avec Mouratoglou. C'est pas pour rien qu'il a mis une durée limitée avec 4 quarts, qui est comme au basket, d'ailleurs, que les 18-34 aiment beaucoup. Paul, qui aime beaucoup le basket aussi. Donc, non, il y a un problème sur le viewership. C'est des gens comme nous qui vont regarder des matchs de 2-3 heures, qu'on va triper, ça va être vraiment cool. Mais une clientèle de 15-34 ans, sa façon de consommer les médias, ça ne fonctionne pas. Ils vont pas s'asseoir devant un match pendant 3 heures. Donc, il faut découper ça différemment, soit via des highlights ou via du streaming où tu regardes un match qui est en reprise puis tu l'accélères sur les moments que tu veux voir seulement. Mais c'est un problème au niveau du viewership, effectivement.
Mais je pense, oui, permets-moi de corrige-moi si je me trompe, mais je pense que ceux qui en profitent le plus, ce sont les organisateurs de la Coupe Rogers. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on est jeune, quand on voit nos idoles, ben on veut les voir jouer en vrai. Et c'est ce qu'on recherche. Nous, on partait, le club de tennis Saint-Jérôme, deux autobus par jour pour aller à la Coupe Rogers, pour on achetait nos billets d'avance, pour on tripait, être là en gang avec nos coéquipiers, puis regarder. Tu sais, quand tu regardes Roger Federer jouer, on a parlé souvent avec Alex, là, juste aller voir les pratiques des joueurs et des joueuses, c'est gratuit.
Inoubliable.
Être de l'action.
Oui.
Donc, je pense que pour les jeunes joueurs et joueuses de tennis, la Coupe Rogers, c'est un événement crucial.
Ben oui, puis ils font des ventes de groupes. Évidemment, c'est intéressant pour les ventes de billets. Donc ils vont faire des ventes de groupes pour les associations régionales, pour les clubs. Et c'est l'opportunité pour un enfant de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans de voir son idole et de dire eh, voilà, c'est mon rêve, je vais être comme voilà. Lui. Donc tout à fait.
Mais j'ai une petite question pour Hugues. Veuillez m'excuser, on a parlé de club de tennis, club intérieur, fidélisation. Hugues, je vais te conter une petite histoire personnelle. J'ai été longtemps membre sur un club de la Rive-Sud. Ensuite, je me suis retrouvé à Montréal, mais quelqu'un m'a parlé de Longueuil, le club de tennis de Longueuil, qui, je ne me rappelle plus en quelle année, avait modifié cette habitude, évidemment, qu'avaient les clubs de vendre des abonnements annuels de plusieurs centaines de dollars simplement pour être membre. Et ensuite, vous n'aviez pas encore réservé votre terrain, vous n'aviez pas encore payé à l'heure. Et là, tout à coup, arrive cette offre à 35 dollars par année, 38, 39 pour le renouvellement, peu importe. Et là, oui, le prix de l'heure de jeu était plus élevé. C'est sûr qu'au lieu d'être à 25, on pouvait aller à 37 ou à 40 $. De l'autre côté, il y a tellement de gens qui se décourageaient en payant le membership de l'année et qui finissaient par perdre goût, perdre des partenaires, être blessés un petit bout de temps. Et puis, on rentrait pas du tout dans notre argent. Je pense que, je termine mon préambule, je pense qu'il y a plusieurs clubs qui ont fini par emboîter le pas dans ce type de stratégie-là. Qu'est-ce que tu en dis?
Je le confirme. Comme tous les abonnements au gym, souvent des gens vont avoir envie d'essayer quelque chose, ils sont motivés, et pour une raison ou une autre, après un mois, deux mois, trois mois, se démotivent et ils vont pas, mais ils sont sur un abonnement qui continue de payer jusqu'à temps qu'ils résilient leur contrat. Mais les clubs qui sont smart au niveau marketing, je vais dire comme ça, vont offrir différents types de packages au niveau abonnement, et même sur des périodes de jeux plus creuses, de ouvrir un club aux non-membres, c'est une bonne idée. Tu payes à l'heure, et plutôt qu'avoir 8 terrains occupés sur 10, tu vas en avoir 10 sur 10 s'il y a des non-membres qui peuvent venir avec une réservation sur un court terme pour jouer pour une heure. Même si c'est 35-40 $, c'est mieux qu'ils payent ça une fois, qu'ils soient abonnés pour un mois ou deux et qu'ils viennent pas après. Donc, et tu vas avoir du trial en marketing, avoir de l'essai, c'est une bonne chose. Des gens qui sont nos membres qui vont dire, hey, finalement, c'est pas mal cool ici, je vais peut-être devenir membre. Donc, c'est une façon pour faire essayer le club à des gens, d'ouvrir les portes aux non-membres. Fait qu'il faut un peu désencarcaner cette approche-là d'abonnement à trois niveaux seulement, plus les temps permanents qui bloquent les meilleures heures, mais ils sont payantes pour les clubs. Donc, encore une fois, c'est une question de créneaux horaires. Il faut découper les créneaux horaires pour que les non-membres puissent avoir accès à des ligues et à des heures de terrain aussi. Et tu renouvelles ta clientèle comme ça.
Un peu comme le hockey, c'est d'arriver au 20e siècle.
Oui. C'est pour ça qu'on les invite, Nico, c'est parce que ça donne des conversations intéressantes.
Mais voilà, que nous n'aurions pas.
Et Hugues, on le fera pour une prochaine fois, mais je vais te relancer éventuellement sur la longueur des matchs, parce qu'il y a quand même quelque chose de complètement contradictoire par rapport à ça, parce que quand tu regardes la consommation vidéo générale, tu as des gens qui peuvent regarder, des gens qui déballent des boîtes pendant une heure et demie, et tu as des documentaires qui ne sont plus sur le format 52 minutes, mais qui deviennent des documentaires de 10 heures, 10 épisodes d'une heure. Alors, j'ai de la misère à croire que tu peux pas t'asseoir sur un match palpitant de 3 à 4 heures. Alors ça, regarde, on se regarde pour un autre sujet. Je te lance la rondelle là-dessus pour que peut-être tu puisses te préparer une réponse. Mais je pense que c'est pas aussi clair que le match est long ou pas long. Enfin, on s'en reparlera.
Un bon sujet pour l'ATP et pour les diffuseurs aussi, tout à fait.
Parce que, tu sais, en tout cas, je dénote un peu ma position, mais moi, j'ai absolument pas de misère à m'asseoir. Puis, je suis peut-être pas le mainstream partisan, mais moi, si le match est bon, je vais le regarder pendant 5 heures. J'étais dans les gradins pour le match Chapovalov, mon fils, au US Open. J'avais des billets pour le central et je suis jamais allé sur le central parce que je suis resté assis sur le deuxième terrain en importance parce que le match était beaucoup trop bon. Il y avait aucune chance que je bouge.
Ouais, voilà. Mais pour ça que t'animes le podcast aujourd'hui. C'est pour ça que tu as le job d'animer le podcast.
Parce que j'adore ça et je vous dis, là, ces temps-ci, mon rythme de vie professionnel est complètement fou, mais ça m'a fait du bien, les gars, d'être avec vous aujourd'hui, de jaser tennis. Paul, t'as été incroyable encore. Hugues, merci pour ton input. Nico, tu sens bon et t'as été pertinent.
Idéal, voilà.
Ça sent jusqu'ici.
Voilà. Merci beaucoup, les gars. Alors, on se refait ça, comme je vous dis. Vous êtes invités quand vous voulez. On a fait une heure facilement. On essaiera finalement peut-être de faire un podcast de 4 heures pour voir si le monde va écouter. Merci beaucoup, les gars. On rappelle peut-être les gagnants. Paul, du côté homme, du côté femme.
Bon Halloween, si jamais on ne se revoit pas d'ici là.
Bon Halloween, et tu vois qui gagnant du côté des hommes chez Roland-Garros, Tim again?
Tim, du côté des hommes, et Kvitova.
Kvitova, très bon choix. Nico?
Je garde Djoko, et je vais y aller avec Kenin, l'américaine, pour remplacer Alep.
Hugues?
Tim, Svitolina.
Même chose pour moi, Hugues et Hugues. Mais Hugues, j'aimerais ça que tu gagnes le Roland-Garros, si tu le souhaites. Ça ferait une année payante. Mais j'ai les mêmes choix que Hugues, Svitolina et Dominic Thiem. On va va voir qu'est-ce que ça va donner dans les prochains jours, prochaines semaines. Merci beaucoup, les boys. Merci, puis vous êtes invités quand vous voulez.
À bientôt.
Au revoir.
Salut.
Bye-bye.